et bienvenue en toute simplicité avec Jean Cloutier et Jacques Delorme. Restez avec nous. En deuxième demi-heure, on aura le directeur général de Vélo Vert, Luis Antonio. Et bienvenue à l'émission En toute simplicité à l'animation Jean Cloutier. Eh bien oui, je vous ai parlé qu'en deuxième demi-heure, dans cette introduction, on aura Luis Antonio Villamizar, le directeur général de Vélo Vert, qui est un organisme à but non lucratif voué à l'intégration en emploi de personnes vivant des difficultés d'ordre socio-professionnel. Et donc, leurs diverses activités économiques nous permettent d'offrir aux employés en apprentissage, une expérience, une formation pratique dans un contexte de travail réel. Alors, le Vélo Vert a officiellement débuté ses activités en août 1998. L'entreprise est le fruit de plus de 2 années de travail orchestré par le Centre d'aide sociale du Bas de la Falaise, un organisme ayant eu la gestion de différents services d'aide à l'emploi depuis 1975. Donc, c'est pas d'hier qu'on a ce genre d'entreprise qui vise à mettre sur pied un milieu de travail concret afin d'y entraîner des personnes qui sont trop souvent exclues du marché du travail pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. Donc en 1997, la récupération, le recyclage ainsi que la vente des vélos usagés étaient pratiquement inexistants. On parle de 1997, ça fait une vingtaine d'années. C'était très très peu commun ce genre de pratique de recycler des produits. Alors, Vélo Vert a mis un terme à cet oubli. Donc, un sondage auprès de la population a alors permis de constater non seulement une préoccupation pour le recyclage, mais aussi un intérêt en ce qui concerne l'achat de vélos réusinés ou usagés. Donc, c'est possible, comme vous savez, pas seulement d'aller au centre d'achat s'acheter un vélo neuf, mais d'aller acheter un vélo usagé qui était complètement réusiné avec des pièces neuves si c'est nécessaire, ou carrément un ajustement à partir de vélos qui ont été apportés. D'ailleurs, ceux qui apportent leur vélo à Vélo Vert peuvent obtenir un rabais de 15% sur soit l'achat d'un vélo neuf ou d'un vélo usagé, ou même pour faire réparer, acheter des pièces de votre vélo, parce que Vélo Vert ne fait pas que vendre, mais aussi fait la réparation et l'ajustement avec des forfaits. En tout cas, on en reparlera en deuxième demi-heure avec Luis Antonio Villamizar, Jacques Delorme qui est avec nous. Luis sera notre invité à 10h30, donc en deuxième demi-heure. Alors, je suis en train de raconter un peu l'histoire de Vélo Vert et qui a un lien avec le groupe de simplicité volontaire, n'est-ce pas, Jacques?
Ben oui, c'est un de nos partenaires parce que on s'est associé avec le Vélo Vert parce que il nous finance avec les barils de récupération d'eau, qui est une invention du groupe de simplicité volontaire, puis qui permet d'avoir une ristourne sur de quelques sous, ben quelques dollars, c'est sur chaque vente de barils. Ça permet de financer les opérations du groupe de simplicité volontaire. Puis on a une belle collaboration parce qu'on s'entend que nos missions là, sont comme complémentaires.
Oui, en fait, on salue Benoît Grenier, qui est un patenteux, ingénieux, ingénieur, qui siège sur le conseil d'administration de Vélo Vert. Et donc, il est un des fondateurs, cofondateurs du groupe de simplicité volontaire de Québec avec son frère Pascal Grenier, qui est toujours très actif avec nous. Tous les deux siègent encore sur le conseil d'administration du groupe de simplicité volontaire de Québec, dont Jacques Delorme, notre co-animateur, est le président. Et on est à la veille de l'Assemblée générale annuelle du groupe de simplicité volontaire qui se tiendra mardi le 6 juin au centre Lucien Borne. Facile à trouver si vous y rendez au centre Lucien Borne sur la rue Saint-Jean, coin Salaberry, mardi le 6 juin. C'est à ce moment-là que le groupe de simplicité volontaire remet son rapport annuel de toutes ses activités, ses nombreuses activités qu'ils ont organisées avec un certain retour sur toutes les activités, entre autres sur la production des barils écologiques. Et Pascal Grenier et Benoît Grenier nous ont fourni un rapport les statistiques de ces fameux éco-barils dont tu nous parlais, Jacques. Si tu me le permets, j'aimerais rappeler ce texte qui sera présenté aux membres, et je vous le donne en primeur, vous, comme éditeur. Et d'ailleurs, cette émission de radio ne serait probablement pas possible sans le groupe de simplicité volontaire de Québec qui a eu l'heureuse idée de relancer le vélo vert lorsque c'était le temps, et pas seulement pour réusiner des vélos donnés qui sont récupérés, là, soit que ce soit des vélos qui ont été récupérés dans les éco-centres ou qui ont été volés mais non réclamés. Alors le service de police s'assure que ces vélos non réclamés, volés, soient récupérés dans le système, donc réusinés. Alors, le rapport du groupe de simplicité volontaire montrera qu'au cours de son histoire, le groupe de simplicité volontaire de Québec a fabriqué et vendu trois types d'objets écologiques. Ceux-ci sont essentiellement la seule source de financement, hein, parce que souvent les activités du groupe de simplicité volontaire sont gratuites ou à un coût minime ou à un coût vraiment de base, comme le colloque, la retraite colloque qui s'organise pour le 4 et 5 novembre au monastère des Augustines. Eh bien, essayer de trouver une retraite colloque à 50 $ pour deux jours, je pense que c'est un exploit de réussir à offrir des activités de cette qualité avec des conférenciers qui seront annoncés très prochainement de cette qualité. Donc, c'est intéressant. Dans un des plus beaux lieux au monde pour faire de la méditation, n'est-ce pas?
Le centre de ressourcement reconnu par le National Geographic Society,
oui, donc,
qui ont répertorié tous les centres de ressourcement à travers le monde. Selon le National Geographic, c'est le monastère des Augustines qui est le centre de ressourcement le plus intéressant au monde, quand même.
Certainement, hein, parce que c'est des centaines d'années de réflexion, de méditation par les sœurs des Augustines dans ce lieu-là, propice à la méditation, à la prière. Donc, ces trois produits dont on parlait, écologiques, produits par Vélo Vert, ou jadis produits par Vélo Vert, il y avait eu en premier les sacs de tissu. As-tu connu cette époque, Jacques, oui, les sacs de tissu? Parce que selon nos statistiques, depuis 2002, au-delà de 20 000 sacs écologiques en tissu et lavables ont été produits. C'est beaucoup, hein? Aujourd'hui, on n'en fait plus du tout. C'est un produit qui a été copié par tellement de monde, et surtout par les Chinois, les Asiatiques.
C'était un sac en passant qui était intéressant parce qu'il était en tissu, souvent en coton, donc un produit quand même écologique qu'on pouvait réutiliser, le relaver, tout ça. Mais ça demandait de la main-d'œuvre pour le coude. Là. C'est des très bons sacs, très beaux sacs. Mais on ne pouvait pas compétitionner avec les sacs
à une pièce,
à 75 sous.
Oui, 75 sous.
Alors,
hein.
C'était
parce qu'on les vendait 10 $, je pense. Hein.
C'était 8 à 10 $ parce qu'il y avait le tissu, plus le travail de couture, puis tout ça. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Au moment où, quand on a commencé ça, il n'y en avait pas de sacs comme on voit là, dans les métros puis les IGA, là, le sac, oui, en espèce de plastique. On était les seuls, donc on en vendait
on
beaucoup.
On était à l'ère du sac de plastique.
Mais c'est ça, là, par après, il y a eu une production massive de sacs, et puis là, ben,
le groupe de
ça se vendait moins bien.
Oui, le groupe de Saint-Pierre-Volontaire à l'époque était avant-gardiste de faire. D'ailleurs, moi, j'ai encore mes sacs où il y a des thèmes dessus, prendre les soins de l'environnement, simplifier la vie. Alors, de belles petites phrasettes inscrites avec un encre très, très résistant, puisqu'après plus de 10 ans, moi, mes sacs sont encore, je les utilise encore. Donc, 20 000 sacs écologiques de cette de cette manière ont été produits en collaboration avec des organismes. Donc, on peut dire que le groupe a vraiment atteint son but, c'est-à-dire de diminuer substantiellement l'utilisation des sacs de plastique. Il est maintenant impossible de concurrencer, comme tu le dis si bien, Jacques, ces sacs faits dans les pays asiatiques, fabriqués dans les pays asiatiques, qui se vendent à peine 1 $. Oh, mais c'était une belle époque de produits, d'objets écologiques. Par la suite, il y a eu l'ère des composteurs. Je ne sais pas si tu te souviens, Jacques. Mm-hmm. Moi, je me souviens très bien, avant même d'être impliqué dans le groupe de simplicité volontaire, j'avais acheté 2 bacs à compost en bois que je savais fabriquer à vélo vert. Et c'était vraiment un bois résistant. Et bon, en fait, j'ai dû déménager à un moment donné pour des raisons personnelles. Et mes bacs sont restés dans la maison de mes parents où j'avais installé. J'en avais déménagé un à un autre endroit où je suis allé par la suite. Puis finalement, il est encore là. Donc, ils sont très résistants. Avec un bon marteau, on peut toujours les réparer quand une petite planche qui décroche. Donc, c'était des composteurs vraiment populaires et recommandés par Lily Michaud, qui, elle, donnait des ateliers dans les bibliothèques. Et elle offrait une liste d'une dizaine de types de bacs, mais elle recommandait celui en bois fait par Vélo Vert et on va dire promu par le groupe de simplicité volontaire. Ces bacs, malheureusement, ne sont plus produits. Et une des raisons qu'on donne, Jacques, c'est que le fait que la Ville de Québec, ici, ait choisi de faire ou de réaliser une usine de biométhanisation d'ici 2022. Alors, on entend parler, c'est peut-être un enjeu électoral, mais en tout cas, le maire actuel, Régis Labeaume, continue de croire que c'est mieux de faire de la biométhanisation, alors que nous, on avait présenté un mémoire lors des audiences pour la gestion des matières résiduelles, où on encourageait plutôt que les gens à faire leur propre compost chez eux pour éviter une sorte d'effet de gaz à effet de serre, tous ces camions qui vont se promener pour amener nos matières organiques éventuellement dans une usine. C'est beaucoup de déplacements sur les routes, alors que chacun pourrait, en tout cas ceux qui le peuvent avec les jardins en banlieue, avoir leur propre compost, donc fabriquer leur propre terre pour leur propre potager. Ça, c'est une façon d'être simplicitaire, hein, d'aller moins souvent à l'épicerie l'été, quand on a notre propre jardin en arrière-cour ou sur notre balcon. Hein. Donc, il y a Crack Bitume qui donne des cours comment faire son potager sur balcon. Et donc, l'époque des composteurs, en tout cas, le groupe n'est plus financé par cette vente de là, mais l'époque des éco-barils, d'ailleurs, c'est un nom. Et on salue José Grignon, webmestre du groupe de simplicité volontaire. Si vous fréquentez le site du groupe de simplicité volontaire à gsvq.org, vous allez voir beaucoup de montages, d'affiches réalisées par la webmestre José Grignon. Pardon. Et José, fièrement, au moment où on devait préparer des affiches justement pour la vente des barils, semble-t-il, c'est elle et son conjoint qui auraient créé ce mot « éco-baril » qui fait référence à ces barils de pluie, récupérateurs d'eau de pluie là, qu'on installe près de ses dalles quand on a une maison de banlieue ou même des résidences pour personnes âgées. J'ai vu des grandes résidences à Portneuf où il y en a 2, un de chaque côté, et cette eau-là sert à arroser les jardins, les fleurs, d'une manière ingénieuse. Hein. Ça paraît simple de faire un éco-baril, mais quand on veut en faire un performant, hein, qui empêche les moustiques de pondre leurs œufs dans l'eau, ben, ça prend des grillages, double grillage, nous expliquerait très bien Benoît Grenier, et qui a une champleur en bas du baril pour qu'on puisse récupérer l'eau plus facilement, et qui a un trop-plein, parce que de ce temps-ci, il pleut tellement que ces barils-là sont remplis d'eau, même si on les a enlevés l'hiver, au printemps, quand il y a des saisons de pluie. Ça nous prend un trop-plein.
Il y a une autre fonction aussi, hein, au niveau des villes, parce que les villes encouragent beaucoup l'utilisation de ces barils-là. C'est certain que pour que ça remplisse sa fonction complète, c'est qu'on doit avoir un jardin, on doit jardiner pour le vider à un rythme qui est assez lent. Mais puis justement, s'il y a beaucoup, beaucoup d'éco-barils, ça permet que quand il y a une pluie forte, c'est comme un peu comme comment je pourrais dire ça? Ça ralentit le choc, autrement dit, c'est que au lieu que
les surverses,
l'eau s'en aille directement dans les rues, bien, c'est retenu dans ces barils-là. Puis, à ce moment-là, ça permet d'avoir des chocs de pluie, là, des inondations, autrement dit.
Oui, puis pour les gens de Limoilou, depuis l'an dernier, depuis le mois de juin de l'an dernier, on peut se baigner à la baie de Beauport quand il n'y a pas eu 3 jours de pluie de suite. parce que c'était prouvé que lorsqu'il pleut pendant 3 jours, l'eau du fleuve dans la baie de Beauport se mélange avec l'eau de pluie et l'eau des égouts, parce qu'il y a eu des surverses, des surpleins. Alors, maintenant, on a développé un modèle, un logiciel qui permet de calculer, selon les précipitations, la possibilité de pouvoir se baigner dans le fleuve ou non. Mmh. Et ça, ça, je sais qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé des années, ça paraît bizarre, mais oui, tout dépendant de la pluie qui tombe, on pollue plus ou moins le fleuve.
Oui, en fait, c'est ce que tu parles, c'est les bassins de rétention.
Oui.
C'est que les bassins de rétention, quand il y a des trop grosses, plutôt abondantes, ils n'arrivent pas à contenir. Là, c'est un autre phénomène. Mais c'est ça, avec nos barils de pluie, on est complémentaire au bassin de rétention, encore
ben
mieux,
oui.
Parce que là, le bassin de rétention, lui, l'eau est déjà rendue dans les égouts, tandis qu'avec le baril de pluie, c'est ça de moins qui s'en va dans les égouts. Là.
Puis encore une fois, c'est des centaines de millions qui ont été investis pour l'assainissement des eaux et la gestion, comme tu le disais bien, de ces gros bassins versants qu'on retrouve le long du fleuve. Alors que si chacun avait sa discipline d'avoir ses propres éco-barils, son propre compostage, on éviterait tous ces transports inutiles. On
puis
essaie de contribuer.
Puis aussi, c'est justement aussi parce qu'en utilisant l'eau, quand on récupère l'eau de pluie, c'est encore aussi ça de moins d'eau potable qu'on utilise, de l'eau qui a été traitée. On prend l'eau de pluie qui est excellente, d'ailleurs, pour arroser nos jardins.
Oui, parce qu'on n'a pas de pluie acide, comme on parlait dans les années 70, on a diminué.
Puis même dans nos résidences, si on veut vraiment être efficace, on peut les mettre en série. On en mettre plus qu'un, on peut en mettre 2, 3, 4. Barry, c'est sûr que là, faut jardiner beaucoup.
Oui. Si vous ne jardinez pas, là, j'ai un ami, Francis, qui a fondé les Jardins de Céline l'an dernier. Il avait commencé avec une vingtaine de paniers bio à livrer. Et cette année, il a décidé d'agrandir son jardin. Donc, si vous allez sur Internet, googlez « Jardin de Céline » et Francis Snow se fera un plaisir d'accepter de vous livrer. Il y a 2 ou 3 lieux de livraison. Il y en a une vingtaine de fermiers, agriculteurs, maraîchers qui font ça dans la région. Je sais que les éminateurs font beaucoup affaire avec la ferme Mauve. J'ai vu récemment dans l'infolettre des émulateurs que Francis était prêt à ouvrir probablement à une dizaine d'autres personnes. Donc, dépêchez-vous pour quelques centaines de dollars, je pense, à moins que 500 dollars. Vous pouvez vous faire livrer un panier immense de bons fruits et légumes produits en banlieue de Québec, à Château-Richer, sur les plus vieilles fermes ancestrales, sur les terres des plus vieilles fermes ancestrales canadiennes-françaises, ici en Nouvelle-France. Donc, c'est vraiment un beau jardin que j'ai eu la chance de visiter. Donc, je salue Francis. Je ne pense pas que les ondes de CQA se rendent jusqu'à Château-Richer, mais lui, il peut venir vous livrer ses légumes.
Mais aussi, pour revenir au baril récupérateur d'eau, de pluie, il y a les urbainculteurs aussi qui ont des...
Oui.
Il faudrait les autres aussi, ils s'intéressent...
Les sacs pour les balcons, là.
Oui, mais ils ont des petits kits, comme on peut dire, qu'on peut installer au bout, c'est pour vider le baril goutte à goutte.
Des systèmes
goutte à goutte.
Ah bon?
Mais là, personnellement, je n'ai pas réussi à, comme on dit, patenter l'affaire.
Ah oui?
Mais ça existe, oui. Et alors, ça permet, à ce moment-là, c'est l'appareillage qui vide le baril, goutte à goutte, dans notre jardin.
C'est bien, ça.
Oui.
C'est, comment dire, ça doit être notre ami Larry Hudson qui a une émission ici, le jardinier paresseux. C'est parfait, ça. Un baril qui arrose vos plantes, vos fleurs, vos légumes, vos tomates, tout seul, sans effort. Eh bien.
Mais c'est ça, il faut
l'acheter.
Il faut aller voir les urbainculteurs.
Oui, eux, ils sont dans le coin de la Fondation L'Aube-Rivière.
Ouais.
Il me semble qu'ils sont dans ce coin-là, sur
local,
l'endroit où le boulevard Charest change de nom.
Ils vont avoir bientôt leur vente de plants, leur plan bio ils font pour les jardiniers année.
Ben, c'est le temps, on parle de jardin.
Et de compost.
Super. Donc, ces fameux éco-barils, savez-vous combien il en fait, Jacques? Peut-être que tu connais. Chaque année, le groupe fait rapport du bon travail de Vélo Vert qui a, une entente dans le cadre du Jour la Terre. Peut-être avez-vous ça si vous magasinez chez IGA, sans trop faire d'annonce, mais on peut acheter un éco-baril justement fait chez Vélo Vert pour un certain prix, je ne sais pas. Et je sais qu'il y a une partie du baril qui est subventionnée par l'organisme Le Jour de la Terre. qui permet aux gens d'acheter justement un éco-baril, de le commander avant et de le pouvoir se le faire livrer dans le cadre du Jour de la Terre, le 22 avril dernier. Alors, je sais que j'étais à Ville-Auvert hier, il en reste encore des éco-barils, des centaines, mais il faut comprendre que Ville-Auvert fait donc la production, la vente, et paie une royauté au groupe de Simplicité Volontaire sur le nom de barils vendus. Donc, même si on est simplicitaire, on aime bien que les gens puissent prendre soin de l'environnement et que ça serve à des organismes, parce que le groupe de Simplicité Volontaire lui-même redonne aux organismes de la région, comme les Amis de la Terre, la Corderie, et comme
le
un
Festival
organisme...
du film.
Festival du film pour l'environnement. Donc, il y a possibilité de faire la redistribution. Et ce que on dit et qui sera diffusé dans le rapport d'activité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que en 2016, Ville-Auvert a vendu environ 10 000 barils et prévoit en produire 8 500 en 2017. C'est quand même intéressant de ces chiffres. Alors, on y mentionne que dans ce rapport que la venue du groupe de Simplicité Volontaire de Québec a permis de consolider les finances de Ville-Auvert. La transformation des barils est également un meilleur apprentissage en vue du retour au travail de bénéficiaires d'Emploi Québec versus le reconditionnement des vélos, ce qu'ils poursuivent toujours toutefois. Alors, on tient à faire remarquer ici que les objets écologiques sont loin d'être l'activité principale du groupe de Simplicité Volontaire, bien sûr. L'organisme a fait un choix judicieux des objets qu'il a fabriqués dans le passé. Comme on vous rappelait, ils ont été impliqués dans la fabrication de composteurs, de sacs écologique lavable pour éviter des sacs de plastique. Et d'ailleurs, quand vous allez chez IGA et que vous demandez un sac de plastique, il y a un montant qui est additionné, je crois que c'est 5 cents, qui est additionné à votre facture. Et c'est avec cet argent-là qu'IGA achète des barils à rabais pour les redistribuer à leur clientèle. Donc, c'est une belle façon de faire de l'économie circulaire pour des bonnes œuvres. Alors, on nous remarque ici que effectivement la production de ces objets écologiques permettent donc de réduire la quantité de déchets, bien sûr, et d'eau, de surplus d'eau. Alors, on salue ici Benoît Grenier qui avait été à l'initiative de ce genre de projet, de concevoir, là, se patenter cet éco-baril fabriqué par des gens en intégration de travail à Ville-Auvert. Donc, c'est une bonne œuvre qu'on souhaite continuer cette collaboration. Donc, on aura quelques questions à poser à Luis Antonio Villamila, le directeur général de l'organisme. Donc, on lui demandera comment va l'entreprise et s'il n'y a pas de nouvelles choses. Jacques, je vois que tu as toujours ta pile de livres prête à être discutée. Quel genre de livre que tu nous as amené aujourd'hui?
Bien, je voulais, encore une fois, pour ce que
coïncidence,
redondant, mon enfant, c'est parce que j'ai découvert cette semaine une nouvelle traduction de Walden. Et
une édition française?
Oui, une nouvelle édition française. Et puis, franchement, là, c'est assez surprenant, c'est assez bien traduit. Tu sais, on en parle souvent que... l'œuvre de Thoreau, faut la lire en anglais, mais c'est pas toujours facile à lire, c'est pas tout le monde qui lit l'anglais. Puis les traductions qui existent en français, ben on en a parlé là, il y en a quelques-unes qui sont bonnes, mais pour Walden, j'en avais parlé d'une la semaine dernière aux éditions Le Mot et le Reste, qui est un peu plus récente. Mais juste une petite remarque que j'ai faite, c'est que il y a un chapitre dans Walden qui s'appelle, le titre du chapitre, c'est Sounds.
Oh oui.
Et toutes les traductions en français, traduisant en français,
par de France, bruit, par français
bruit,
de France,
par bruit. Mais bruit, c'est je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait, bruit, l'équivalent en anglais de bruit, c'est noise. C'est le bruit, il y a quelque chose de péjoratif là-dedans. Là.
Quelque chose de dérangeant. Là.
Ben, c'est il y a une différence entre un bruit et un son. Hein.
En
on
ne
dirait pas
ouais.
De la musique, ce n'est pas des bruits, la musique, c'est des sons. Hein. Et en anglais aussi, c'est péjoratif. Noise puis sound, c'est pas la même chose du tout. Et c'est anecdotique, mais enfin, une traduction en français qui traduit le titre de ce chapitre-là par son. Alors, j'ai trouvé ça comme... Bon, c'est comme un clin d'œil intéressant, en tout cas, pour moi. Alors, c'est ça, c'est...
Est-ce qu'il y a le nom d'une
oui,
personne associée
alors,
à cette traduction?
Alors, c'est une édition que je ne connais pas, mais je l'ai trouvée, je l'ai trouvée chez Pantoute, là, alors facilement trouvable, là. Et les éditions, je vais vous le dire, puis les plier, parce que c'est, je ne connaissais pas cette édition-là. L'édition, c'est Gallmeister, Gallmeister, Henri David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, suivi de... il y a aussi l'oraison à la fin, quand Thoreau est décédé, son ami Emerson avait écrit une oraison funèbre qui était intéressante, qu'ils l'ont traduit dans le, puis qui est dans le même volume. Puis le traducteur s'appelle Jacques Maillos, M-A-I-L-H-O-S. Puis il semblerait que c'est un traducteur réputé en France, qui s'intéresse beaucoup à la littérature américaine. Il a traduit plusieurs livres, puis s'est attaqué à Thoreau. Il a aussi traduit La désobéissance civile. Mais La désobéissance civile, on a une bonne traduction par une québécoise, là, qui est très bonne.
Aux
là.
Éditions Typo,
oui.
Préfacée par Marc Chabot, prof de philo, Serge Gardeau, retraité, qu'on peut croiser quand on va à la bouquinerie Nouvelle Chance.
Mais oui. je pense que c'est disponible aussi encore en librairie, ça, cette édition.
Je sais que Marc Chabot en a plusieurs copies qui ne sont pas passées au pilon, comme on dit.
Ah, mais c'est pas...
Il m'en avait offert une.
Ça n'a pas été passé au pilon, là. Ça, c'est toujours actif, je pense, les éditions Typo, là.
Non, mais je veux dire, la désobéissance civile, probablement qu'ils ont continué à en imprimer.
Oui.
Il a dû avoir les premières versions, dont... qui avait été traduite par sa conjointe. Donc, c'est une façon très, très québécoise.
Alors, c'est ça. Alors, nouvelle traduction 2017, fraîchement sortie de Walden, aux éditions Gallmeister, Gallmeister.
Comme j'ai sur ma
16,95.
Sur mon véhicule arrière, ceux qui me connaissent savent que j'ai une étiquette qui dit « Plant a seed, read Walden. » Planter une graine, lisez Walden ou La vie dans les bois, qui est le nom de l'étang où Thoreau a construit sa petite tiny house, sa petite maison, où il a vécu 2 ans, 2 mois, 2 jours, 2 heures, 2 minutes, 2 secondes, à 2 kilomètres de sa mère.
Ce qui est intéressant aussi, je lisais sur Internet un peu ce qui... des commentaires, parce qu'il y a une entrevue du traducteur de Thoreau, puis... sauf, on n'arrête pas de le redire, c'est parce que Thoreau, avec sa petite maison qu'il a construite près de l'étang à Walden, a la réputation d'être un genre de survie. Tu sais, les gens qui font de la survie dans les bois, le survivaliste. Mais en fait, oui, il était dans le bois, mais en réalité, il était plutôt dans le village, mais un peu à retrait. C'est bien différent. Et l'image qui est restée, c'est quelqu'un qui s'était isolé en forêt puis qui faisait de la survie, mais c'est pas le cas du tout, là. Puis c'est ça, le traducteur en parle, dit Thoreau n'était pas un survivaliste. C'était plutôt quelqu'un... Puis lui, tu vois...
Mais il peut aider les survivalistes parce que sa connaissance des plantes, son côté naturaliste vraiment très, très, très documenté, pouvait peu aider les gens à lire, qui lisent ses livres, à se débrouiller dans le bois et à survivre dans la nature.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui était lui-même là, grand marcheur, puis quelqu'un qui pouvait...
Un sens d'observation incroyable.
Qui aimait faire de la randonnée.
Que tout survivant doit avoir.
Etc. Mais ce n'est pas un livre sur la survie en forêt,
non,
moins
non,
de
non.
là.
Non, non, non. Il y a des petits trucs, là, de toute façon, c'est tout un melting pot, c'est un livre-là. Est-ce que tu as un autre livre dont tu aimerais ou tu voudrais nous lire un extrait de Walden?
J'avais pensé te lire un petit
au
extrait.
Chapitre printemps, peut-être, non?
Ah, ben j'ai pas choisi celui-là.
Non. Pour ceux qui aiment le Thoreau, de toute façon, Walden, entre autres, vous pouvez aller sur le site du groupe de Saint-Pierre Volontaire et à la lecture théâtrale, il y a dans la section Nos productions. À l'onglet Nos productions, vous avez la lecture théâtrale qu'on avait organisée il y a déjà 3 ans. Vous avez l'intégrale de plus de 2 heures de lecture théâtrale par des comédiens montréalais. Ah, il sait pas à peu près. Des vrais comédiens, ceux que vous voyez à télé des fois, là, dans les annonces ou dans des téléromans. Eh bien, ils lisent Thoreau, un texte écrit par Denis Lavallou, qui résume des extraits importants de grandes œuvres de Thoreau, dont celle de Walden.
Le traducteur en question, lui, en fin de compte, s'intéresse à ce qu'il appelle au nature writing, là, tu sais, la littérature sur la nature. Et ce qu'il dit de Walden, lui, sans le dire exactement comme ça, c'est qu'il dit que c'est plus un livre sur la simplicité volontaire. Parce que dans Walden, ce qui ressort, selon l'auteur, c'est plus c'est la vision du travail de Thoreau, comment il voit le travail. Alors, je suis d'accord avec ça. C'est plus une œuvre philosophique sur comment bien vivre sa vie, comment vivre pleinement sa vie. Et c'est justement ce petit extrait-là que j'ai pris à lire. Alors, je vais en lire un petit bout. Tu m'arrêteras quand tu trouveras que c'est assez.
Ah, bien, c'est parce qu'après cette lecture, on va aller en musique et on communiquera avec Luis Antonio Villamizar, le directeur général de Vélo Vert, pour avoir plus de détails sur les belles œuvres de Vélo Vert. Mais
alors,
on écoute Thoreau.
Alors, la nouvelle traduction, le petit extrait. Je suis parti vivre dans les bois parce que je voulais vivre en toute intentionnalité, me confronter aux données essentielles de la vie et voir si je ne pouvais apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner, plutôt que de constater, au moment de mourir, que je n'avais point vécu. Vivre est chose si précieuse. Je ne souhaitais pas vivre ce qui n'était pas la vie, et je ne souhaitais pas non plus m'exercer à la résignation, sauf en cas d'absolue nécessité. Je voulais vivre intensément et aspirer toute la moelle de la vie, vivre de manière si robuste et si spartiate que je serais en mesure d'arracher à la racine tout ce qui, dans la vie, n'était pas la vie, débroussailler un large pan et y faire table rase, traquer la vie, la bloquer dans un coin, la réduire à ses plus petits dénominateurs et, si elle s'avérait vile, eh bien, tant pis, j'en boirais l'authentique vilainie jusqu'à la lie et puis ensuite, je publierais sa vilainie aux yeux du monde. Ou, si elle s'avérait sublime, eh bien alors, je le saurais d'expérience et serais en mesure d'en faire un compte-rendu sincère lors de ma prochaine excursion. Il me semble, en effet, que la plupart des hommes éprouvent des sentiments étrangement ambivalents à son égard, se demandant si c'est à Dieu ou bien au diable qu'on la doit. Et on conclut, quelque peu hâtivement, que le but suprême de l'homme sur cette terre est de glorifier Dieu et de jouir de lui à tout jamais, comme le dit le catéchisme. Pourtant, nous vivons mesquinement, comme des fourmis, bien que selon la fable, nous ayons depuis fort longtemps été changés en hommes. Tels les pygmées, nous nous battons contre les grues, nous ne faisons qu'accumuler erreur après erreur, réparation après erreur, et notre vertu la plus noble ne trouve à s'exprimer que depuis un état de misère inutile et évitable. Notre vie s'effrite, disparaît sous les coups des détails. Un homme honnête n'a guère besoin de compter plus avant que ses 10 doigts, dans les situations extrêmes, il pourra ajouter ses 10 orteils et prendre tout le reste au prix du gros. Simplicité, 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 je dis, faites en sorte que vos affaires tournent en deçà du chiffre 2 ou 3, jamais 100, jamais 1000. C'est un petit clin d'œil à la simplicité volontaire.
La République du Congo a été proclamée. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. C'est
d'indépendance du Congo. Si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal. Ni les Congolais, Dieu de ses noms, ne pourra jamais oublier ses pandas, que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Nous avons connu que notre fils polié, que notre texte prétendument légaux, qui ne faisait que reconnaître les droits du plus fort.
La violence, nous avons répondu par la non-violence. Ils ont voulu me corrompre, m'acheter. J'ai refusé.
Les lombo et bimie, donga pe et beti, tope sana, ma boko, iso la viso, to si mara makasi, to sambela, pour amour.
Tragédie, Lumumba, Patrice et mérite. Un pays riche, mais tes fils sont les déshérites. Une terre bénie dont la politique est maudite. On manipule les faux et les frères, on les décapite. Scandale, t'avais tout pour être number one. Mais la Belgique ne veut pas de toi en number one. La CIA ne veut pas de toi en number one. Comme d'habitude, on a fait contre tous les number one. À ta place, on manipule un manipulateur. Un prédateur, on dit tout, petit dictateur. T'étais la cible, on t'avait mis dans le collimateur. Public enemy, Lumumba, l'agitateur. Tu l'as dit un peu plus haut. Faut qu'on faille
ensemble,
et qu'on se batte
ensemble,
et tous les frères
ensemble,
et qu'on les brise
ensemble,
et qu'on les bloque
ensemble.
Le Congo n'a pas de chance, il n'est pas fait
ensemble.
Les lombo et bimie, ngonga pe et petit.
Sphère matérielle, ta pensée demeure aussi réelle que ça apparaît ensemble dans le spirituel. Nous sommes restés fidèles, l'amour dans l'âme du fait que l'indépendance chèrement acquise demeure virtuelle et confuse pour le peuple trahi par tes successeurs, tes fils, fidèles à ton combat et vision comme.
Eh bien, merci beaucoup. On a en ligne avec nous Luis Antonio Villamizar, directeur général de Vélo Vert. Bonjour, monsieur Villamizar.
Bonjour, monsieur Cloutier.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, en première partie d'émission avec Jacques Delorme, président du groupe de Simplicité Volontaire, on a abordé un peu l'historique de Vélo Vert et le lien qui existe entre le groupe de Simplicité Volontaire de Québec et Vélo Vert. Mais à l'heure actuelle, vous êtes en pleine production de vélo. Est-ce que vous faites encore des éco-barils?
Oui, en fait, des éco-barils depuis 2010, là, ça a été un succès assez important. Je vous dirais environ 8000 barils sont assemblés puis vendus partout au Québec.
Oui, et justement tout à l'heure, pendant la pause musicale, juste avant qu'on vous rejoigne à Vélo Vert, il y a une de nos auditrices qui a appelé en disant que c'est effectivement aujourd'hui, elle est toute fière de nous dire ça, la dame, qu'elle va aller chercher son éco-baril chez son IGA tout près de chez elle entre 4h et 6h. Donc c'est une journée importante là, pour la distribution des éco-barils aujourd'hui.
En effet, oui, comme vous dites, nous sommes fournisseurs de l'organisme Jour de la Terre qui distribue, cette année, je pense qu'elle distribue environ 8000 barils partout au Québec. Alors, nous sommes fournisseurs de l'organisme Jour de la Terre.
Et ça, ces barils-là sont faits là, sur le boulevard La Canadière, dans les sous-sols de la boutique de vélo, là?
Oui, en effet, ils sont assemblés dans nos locaux ici au 30-30 boulevard Saint-Anne. Donc, c'était des barils qu'on récupère de l'industrie alimentaire qui ont servi à transporter des aliments. Puis nous, par la suite, ben, on les transforme en barils récupérateurs d'eau des pluies.
Ça peut prendre combien de temps faire un baril comme ça?
Écoutez, la transformation est assez simple. Ça prend peut-être 5-10 minutes tous les processus de lavage, perçage des couvercles, robinet, trop-plein. Donc, c'est assez simple comme transformation.
Oui, hein, donc c'est pour ça que vous pouvez en produire beaucoup. Il y a combien d'employés qui travaillent à la fabrication de ces éco-barils?
Je vous dirais, ça varie un peu. Ça peut être entre 6 et 10 personnes là, à l'année. pour en produire environ 8 000, 9 000 barils.
Et là, moi, on a eu la chance de visiter le groupe de Saint-Pusté Volontaire. Il y a Jacques Delorme qui était avec nous. Jacques, je ne sais pas si tu te souviens du nombre de vélos que tu as vus qui étaient entreposés là. Il peut y avoir combien de vélos récupérés et entreposés chez vous?
Écoutez, nous récupérons environ entre 2 000 et 2 500 vélos par année. Donc, et nous faisons la cueillette auprès des citoyens. Nous faisons, il y a des citoyens qui se déplacent directement à la boutique puis qui font don de leurs vélos. On a aussi une entente avec la ville de Québec là pour une partie des vélos récupérés. Donc, environ 2 000 à 2 500 vélos sont ramassés par le Vélo Vert.
Et donc, on peut, ça, ces vélos-là sont tous réusinés, réajustés, remis à neuf, en fait, pour être vendus en boutique.
En fait, oui, c'est ça. On fait un tri. Tous les vélos qui sont en bon état, puis qui sont encore réparables, puis qui peuvent être revendus, bien, on les répare, on les reconditionne. Je vous dirais, c'est environ 50% des vélos qu'on récupère sont encore en bon état, puis l'autre 50%, bien, s'en va au recyclage des métaux.
Oui, donc, ça doit arriver que vous envoyez des camions remplis de cadres qui ne servent plus à rien, j'imagine? Que...
Oui, en effet, on fait le démontage, on récupère les pièces, par contre, qui sont en bon état. Pas peut-être que le vélo, il est brisé, mais il y a sûrement des pièces qui sont encore en bon état. Donc, on récupère les pièces, puis les restants, bien, on la voit au recyclage.
Et cette politique, là, comme là, si j'ai rencontré des gens récemment qui m'ont dit qu'il y avait des vélos de trop dans leur cabane, sont en train de faire leur ménage de printemps. Alors, si quelqu'un amène son vélo chez vous, ou appelle pour le faire récupérer. Je pense qu'il y a un endroit sur le site Internet, les gens peuvent remplir un formulaire en donnant leur adresse, puis on va passer les prendre. Mais qu'est-ce qui est préférable, que les gens amènent leur propre vélo ou qu'on vous appelle?
Oui, écoutez, ça dépend de la personne. C'est sûr qu'on nous, on offre les services à domicile. Donc, pour ça, la personne peut, comme vous dites, le remplir un formulaire en ligne ou téléphoner puis laisser un message avec leurs coordonnées. Puis par la suite, on rappelle pour confirmer la date de la cueillette. Si la personne veut profiter des 15% des rabais, à ce moment-là, la personne se présente sur place en boutique. Il fait don de son vélo, puis nous, on donne un coupon rabais de 15% applicable sur tout achat.
Et même les réparations de vélo?
Oui, même les réparations de l'eau, puis même sur l'achat des cobaris.
Ah, c'est une belle...
Donc, sur tout produit et service offert à la boutique.
Oui, Jacques Delorme, vous avez une question.
Bien, c'est plus une remarque, mais c'est un bel exemple de tu sais, quand on parlait dernièrement, là, zéro déchet, objectif zéro déchet, l'économie circulaire, hein, c'est vers là qu'on s'en va, où on voit là qu'il y a un vélo qui est recyclé, on le démonte, on en fabrique des nouveaux avec les anciens, puis le métal est recyclé, puis on ne sait jamais, peut-être que ce même métal-là va être réutilisé pour faire des nouveaux vélos. Alors ça, c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est directement dans notre philosophie.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le Vélo Vert fait partie là, justement du recrutement des entreprises d'économie circulaire.
Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entreprises dans la région de Québec qui font ce genre de récupération dans l'économie circulaire?
Écoutez, pour l'instant, je pense que nous sommes une dizaine d'organismes là, qui veulent mettre en place justement un système de zéro déchet puis de maximiser tout ce qui est la consommation des produits et services.
Très intéressant. D'ailleurs, dans le bulletin Simplement Vôtre qu'on peut retrouver sur le site web du groupe de Saint-Pusté Volontaire, pardon, le bulletin du mois de printemps, en fait, printemps-été 2016, donc le printemps dernier, si vous allez sur le site, il y a un article écrit par Gaston Barry qui parle de son expérience client chez Vélo Vert, qui lui a tellement été impressionné par... le processus là, d'encourager la création d'emplois et des bonnes œuvres. Eh bien, il a acheté deux vélos, un pour amener avec lui quand il est allé un voyage en vélo à Cuba. Il l'a laissé sur place à des gens. Et est-ce que ça arrive que des gens veulent acheter des vélos pour les envoyer à l'extérieur?
Oui, en effet, oui. Nous avons déjà été contactés par plusieurs personnes là, qui voyagent à Cuba puis qui veulent faire don des vélos. Puis oui, en effet, même des pièces. Là, des fois, ils viennent chercher des pièces pour apporter à Cuba pour que les gens puissent réparer leur vélo.
Bon, écoutez, merci beaucoup, Luis Antonio Villamizar, de nous offrir de votre temps. Mais Jacques Delorme a une autre question.
Bien, je pense qu'il faudrait peut-être rappeler là, les points de vente pour les éco-barils présentement, là.
Et dans le fond, nous avons juste le siège social à Québec. Là. C'était les 30-30 boulevard Saint-Anne. Donc, okay. C'est la seule place présentement où est-ce qu'on fait la vente des Cobaris. Mais bientôt, nous allons ouvrir un petit point de location de vélos à Lévis. Donc, c'est un beau projet qui s'en vient. Donc, les gens de Lévis vont pouvoir aussi profiter de la vente des barils puis des vélos.
Puis, dans les IGA, vous autres, est-ce que vous avez un suivi un peu de leur activité de vente ou...
Bien, en fait, avec notre lien avec IGA, c'est juste on est fournisseur. C'est vraiment Jour de la Terre là, qui gère les projets de distribution Comptelle. Okay.
Mais c'est ces jours-ci, je pense.
Hein, oui, c'est ça. Aujourd'hui, n'oubliez pas ceux qui avaient commandé des barils. C'est une drôle de coïncidence. On ne le savait pas, mais c'était une bonne journée pour en parler. N'oubliez pas d'aller chercher vos éco-barils. Ceux qui l'ont déjà commandé, on ne peut pas arriver au IGA, je pense. Puis...
Non, tout à fait. Je pense que ça prend une inscription. Puis par la suite, la personne est confirmée qu'effectivement, elle a le droit au baril. À ce moment-là, il va le chercher dans les points de distribution prévus à cet effet.
Sinon, on se rend au 30-30 chemin Boulevard Saint-Anne.
Boulevard Saint-Anne, oui.
Continuité de la Canardière, tout près d'Estimauville. Et là, sur place, je pense qu'on peut acheter un baril, mais au plein prix, à 68 $ plus taxes.
68, oui, plus taxes. Mais bon. Si vous savez, en vieux vélo, bien, les gens peuvent profiter de 15 % de rabais.
Ah oui, c'est bon pour les barils aussi.
Oui.
Ah, je pensais que c'était juste ce qui avait rapport au vélo. Ah, bien, c'est une bonne idée.
C'est pour tout service offert à la boutique, même les services d'entretien et réparation. Pour ceux qui veulent faire du vélo, puis avoir les vélos en bon état et sécuritaire, bien, c'est le bon moment pour venir faire l'entretien.
Bon, bien, ça fait un baril à 68 $ finalement, on sauve les taxes.
Oui, c'est ça, c'est l'équivalent des taxes.
Bon, bien, un déco-baril pour moins de 70 $ Il y a aussi des bacs à compost, hein, des barils de composteurs qui, eux, sont, si je m'abuse, j'ai vérifié, à 35 $
Oui, nous avons aussi exactement. Nous transformons aussi les barils en barils pour le compostage. Donc, c'est un autre moyen de faire un geste pour l'écologie, l'environnement.
Bien, merci beaucoup, monsieur le directeur général de Vélo Vert, Luis Antonio Villamizar, de nous avoir consacré du temps et donné quelques détails si importants pour que les auditeurs puissent faire leur part dans ce monde du zéro déchet.
Puis aussi, on peut aller chercher des vélos aussi chez Vélo Vert, acheter des pièces.
Oui, en effet, nous vendons des vélos usagés, nous vendons des vélos neufs aussi, pièces, accessoires, donc tout ce qui a rapport au monde du vélo, là, nous sont capables de fournir tout ce que vous avez besoin.
S'il y en a qui arrivent avec leur vieux bazou, leur voiture, là, ils peuvent-ils avoir droit à 15 % s'ils vous laissent leur char dans l'entrée?
Non, pas pour l'instant, mais peut-être dans l'avenir.
Ah, ben écoutez, on vous souhaite bonne chance dans vos projets. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Soleil de l'équateur, papa s'en va vivre ailleurs. Ils sont venus, ils attendent dans la rue. Maman dit qu'ils ont du courage, tous les papas de mon village. Maman m'a dit qu'il défendait nos droits, qu'il n'avait pas le choix, qu'il reviendra me serrer dans ses bras. C'est toujours la guerre par ici, sous la ligne du paradis. Ce sont des diables qui ont pris mon pays. Maman dit qu'ils veulent tout nous prendre, que je ne pouvais pas comprendre. Maman m'a dit de prier pour papa, qu'il n'avait pas le choix, qu'il reviendra me serrer dans ses bras. Mais moi je me ferai un fusil de bois et je défendrai mes droits. Moi, je me ferai un cheval de bois et j'irai chercher papa. Sous le soleil de l'équateur, gardé caché au fond du cœur, comme une promesse au Seigneur, comme un serment d'enfant qui pleure, il me revient une prière. Je ne ferai jamais la guerre. Tombe une larme sur le bois qui m'avait servi autrefois. Tombe la nuit sur un enfant qui a compris, devenu grand, que si son père a fait la guerre, c'est pour qu'il n'ait pas à la faire. C'est pour qu'il n'ait pas à la faire. C'est pour qu'il n'ait pas à la faire. Moi, je ferai un fusil de bois et je défendrai mes droits. Moi, je me ferai un cheval de bois et j'irai chercher papa.
Merci Mario Brassard, merci beaucoup de nous faire rappeler l'Amérique latine. Donc, je lis l'extrait de Christophe André, 3 minutes à méditer, chapitre 14. Nous ne tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous nous rappelons le passé, pour l'arrêter comme trop prompt. Si imprudent que nous errons dans le temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul temps qui nous appartient, et si vain que nous songeons à ceux qui ne sont plus rien, et échappons sans réflexion le seul qui existe. Pascal, dans un livre aux éditions L'Iconoclaste de France Culture, Christophe André, 3 minutes à méditer. Jacques, qu'est-ce que tu as à compléter à cette citation que je viens de dire de Pascal?
Je voulais juste faire un petit clin d'œil à notre colloque qui s'en vient, qu'on va annoncer là, d'ailleurs bientôt là, dans le bulletin qui est à veille d'être publié. Et ce petit l'extrait de Christophe André, c'est Christophe André, ce que j'aime beaucoup, c'est lui qui a fait connaître la méditation laïque. Et c'est un peu ce qu'on va présenter là, dans notre
colloque. Ouais, la version québécoise de méditation laïque, c'est Robert Béliveau, qui est un médecin qui travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui va commencer la première méditation à cette retraite colloque, qui se déroulera au monastère des Augustines, samedi 4 novembre et 5 novembre. 5 novembre, jour des élections municipales. Donc, ceux qui ne voudront pas faire de la politique municipale, qui n'ont pas le goût d'aller voter pour qui que ce soit, eh bien, ils pourront aller...
On va s'organiser pour...
Ah, ben, on va vous donner
le temps. On fera une marche silencieuse jusqu'au bureau de vote.
Ben oui.
Mais c'est ça. Alors, c'est ça, c'est extrait, cette citation de Pascal-là, c'est extrait du plus récent livre de Christophe André qui s'appelle « 3 minutes à méditer ». Puis, c'est des exercices, c'est une quarantaine d'exercices différents. Et le petit extrait de Pascal que tu as lu, le philosophe Pascal, pas notre ami Pascal.
Non, pas Pascal Grenier.
C'est le titre de ce petit exercice-là, c'est « L'instant présent ». Puis, c'est un livre qui est intéressant parce que c'est des exercices, 40 exercices avec un petit texte au début, donc c'est quand même assez léger comme
exercice. Quel exercice qui est associé à ce texte que je viens de lire?
Là, c'est plus un exercice que je dirais philosophique. Alors, je peux lire l'exercice. C'est dit « Notre esprit est capable de vagabonder dans le temps ». C'est ça le problème, c'est qu'on est toujours distrait. Mais pas notre corps. Le corps, lui, est toujours dans le présent. Alors, pour nous ancrer dans le présent, Nous allons simplement nous ancrer dans notre corps, nous ancrer dans notre souffle, dans chaque respiration, dans chaque expiration. Nous ancrer dans les sons de chaque instant, dans nos sensations physiques à chaque moment. Nous allons vivre chaque seconde comme si elle était unique. D'ailleurs, elle l'est vraiment. Jamais encore vous n'avez vécu cet instant et jamais plus vous ne le revivrez. Vous ne pouvez l'empêcher de fuir et de disparaître, mais vous pouvez décider de pleinement l'habiter. Décider de pleinement habiter ce repas avec vos proches, malgré les soucis qui entraînent votre esprit ailleurs. Décider de pleinement habiter maintenant, cet instant, d'un après-midi d'été, ce matin de printemps, ce soir d'hiver, ce jour d'automne, de pleinement habiter ces vacances, même si la rentrée suivra, de pleinement habiter toute votre existence, malgré la mort qui viendra, de pleinement habiter chaque instant de votre vie, à commencer par celui-ci. Ben, c'est ça, c'est un exercice, je dirais, simple de rappel, d'être dans le moment présent, de respirer, puis d'être dans le présent. C'est ça, la méditation, dans le fond. Alors, c'est ça, petit livre... dernier livre de Christophe André qui s'intitule « 3 minutes à méditer » aux éditions L'Iconoclaste.
Donc, à la retraite colloque des 4 et 5 novembre, outre des exercices qui seront offerts par le docteur Béliveau, on aura aussi le docteur Jean Drouin qui est un spécialiste de la santé globale. Alors, on l'aura... Monsieur Drouin, docteur Drouin, avec nous dans nos émissions à l'automne, puisque, semble-t-il, il y a possibilité qu'on continue notre émission en toute simplicité à l'automne.
Alors, puis il y a aussi Mme Mandeville qui va être là.
Qui va nous parler de la psychologie quantique, qui est, elle, lors du dernier colloque, il y a 2 ans, nous avait parlé de la psychologie du bonheur.
En fait, c'est... Elle, juste peut-être... Je ne veux pas t'interrompre.
Non, vas-y.
C'est qu'en fait, Lucie Mandeville... Elle est dans la psychologie positive. C'est tout un courant de psychologie là, qui s'intéresse à qu'est-ce qui fait qu'on est bien, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Puis ça recoupe beaucoup là, ce qu'on dit dans Saint-Pierre-Montan. Puis là, ça doit être... C'est pas un nouveau courant de psychologie que je pense pas. Là. C'est plutôt comme un livre plus loin dans sa réflexion sur la psychologie positive. Là, je l'ai pas vu, son livre. Là.
Non, il n'est pas encore sorti. C'est une primeur, le colloque, ce qu'elle nous a confirmé. C'est qu'elle a pris sa retraite d'enseignante à l'Université de Sherbrooke. Elle enseignait pendant longtemps, justement, la psychologie positive. Beaucoup de ses écrits connus, je pense, par le grand public sur le bonheur, la façon d'aborder le bonheur et les pensées positives. Et là, elle, dans le cadre de sa retraite, elle a écrit un livre qui va sortir à l'automne, mais après le colloque. Elle va comme tester quelques-uns de ses exercices, quelques-uns de ses textes, ses réflexions, qu'elle a titrées, peut-être pour provoquer, de la psychologie quantique.
En tout cas, ça va faire une primeur pour les gens du colloque.
Oui, tout à fait. Et outre Lucie Mandeville, on aura Jacques Sénécal, le grand philosophe, prof de philo retraité, qui, j'espère, n'a pas été touché dans les inondations de Nicolette, parce que lui, il part de Nicolette quand il vient faire les cafés philo. Et le dernier café philo, qui a été organisé le 7 mars dernier en plein verglas, fait en sorte que beaucoup de gens ont regretté ne pas pouvoir s'être rendus, tout comme le 7 février, c'était une tempête de neige. Alors là, on offre aux auditeurs en primeur, vous irez sur le site voir la confirmation, mais le jeudi 1er juin, un café philo animé par Jacques Sénécal, et le 2 juin, le lendemain, en primeur, c'est même pas encore sur le programme officiel de la Foire Écosphère qui se déroulera pour une deuxième fois à l'espace 400e à Québec, les 3 et 4 juin, mais nous, on étire le plaisir. Le vendredi 2 juin, on fait un café philo qui suivra le visionnement du film Le bien vivre simplicitaire en version 52 minutes, donc de moins d'une heure. Donc, à ne pas manquer, on en parlera. En conclusion, Jacques, s'il te plaît.
Juste pour le café philo du jeudi 1er juin, c'est au café temporel.
Oui, c'est vrai. Jeudi temporel, alors que le vendredi lendemain, on descend à la côte et on s'en va à l'espace 400e.
C'est temporel.
On en reparle vendredi prochain. Merci. Jacques Delorme à la chronique, Jean-Claude à l'animation et notre invité Vélo Vert. N'oubliez pas d'aller chercher vos barils ou d'aller en acheter un à Vélo Vert.
Bonjour, pourquoi n'écoutez-vous pas British Connection?
Hein? C'est qui ce freakish Bonelson?
Parce que c'est l'heure où je sors mon chien!
Pourquoi je n'écoute pas votre British Connection? Mais parce que le rock est une musique du diable!
Parce qu'en fait, à la base, je suis allergique au pollen et aux arachides, alors vous imaginez bien que je peux pas faire n'importe quoi, hein, je dois être vigilant.
Et comme de l'arachide, on en fait partout.
Samedi, 19h.
British Connection.
Et toi, c'est quoi ton excuse?
Bonjour, ici Camille Comeau.
Et Chloé Bergeron.
À chaque semaine, venez écouter l'émission Transréalité. Nous vous informerons de la réalité des personnes transgenres, autant au niveau psychosocial que médical.